Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Une grosse journée encore qui s'annonce niveau actualité et toutes sortes d'histoires qu'on va vous rapporter dans cette émission-ci. Restez des nôtres, vers la fin de l'émission, on va parler d'une ex-collègue qui vit en ce moment une histoire digne d'un film. Vous connaissez peut-être la formule « Le chien a mangé mon devoir », cette fameuse excuse. Eh bien, attendez de voir. Des fois, c'est plus proche de la réalité que ce qu'on pense. Sinon aussi, un texte assez intéressant, merci, dans le Journal de Montréal, qui vient me dégoûter jusqu'à mes fibres les plus profondes. On apprend que des agentes immobilières subissent des comportements déplacés constamment, et c'est presque unanime chez toutes les femmes qui ont été consultées, entre autres par nos collègues du journal. On parle évidemment d'images obscènes envoyées, des sextos non désirés, des hommes qui les reçoivent à moitié nus avec un pénis en érection exhibé. Bref, des histoires complètement atroces. Hein. Faut comprendre, les agentes immobilières, ben c'est des femmes qui doivent montrer à la fois leurs photos et leur numéro de téléphone au grand public pour exercer leur travail. Ce qui fait que ben les vieux pervers, les dégueulasses, les creeps, toutes ces personnes-là, ben tout ce beau monde envoie parfois des photos et des messages obscènes aux agentes immobilières. Vraiment, les hommes ne reçoivent pas ça, les agents immobiliers de leur côté. C'est absolument dégueulasse. Et vraiment, ça vient me chercher ce genre d'histoire-là. Les femmes en politique, les femmes dans le milieu public vivent constamment un harcèlement qui est au niveau sexuel. Et ça me choque profondément. Sinon, il y a une chasse à l'homme qui se poursuit encore au Québec. Il y a un prisonnier de 42 ans qui est considéré comme dangereux et qui est peut-être armé même. Ça se poursuit. Jérôme Vincent Vaillancourt, 6 pieds 5, cheveux châtains, yeux bleus, des tatouages tribaux sur les deux bras. Si vous le voyez, appelez la police. Hein, la Sûreté du Québec, ne l'approchez surtout pas. Il est toujours en ce moment en cavale. Sinon, un autre sujet assez intéressant, merci. Un message que j'ai reçu comme ça qui a piqué ma curiosité. Il y a une entreprise québécoise, une entreprise d'ici qui fête ses 120 ans cette année. 120 ans, c'est beaucoup, hein? Un 120e anniversaire, donc qui a été fondée en 1902. Et vous me direz, ben, quel genre d'entreprise peut poursuivre ses activités comme ça au travers du temps sans jamais ben, être affectée, puis en poursuivant constamment ben, son petit bonhomme de chemin? Ben, il y a plusieurs constances dans la vie. Il y en a une d'entre elles, c'est la mort. La mort. Et c'est de la mort qu'on va parler aujourd'hui. Patrice Chavgros est directeur général d'Urgel Bourgie, hein, une entreprise québécoise d'ici qui offre des services, des produits funéraires. Bonjour, M. Chavgros.
Oui, bonjour.
Ben, tout d'abord, là, ça fait 120 ans. 120 ans, êtes-vous fier d'avoir passé tout ce temps avec votre entreprise puis vous dirigez toujours très fort?
Ben, nous sommes particulièrement fiers d'être au service de la population depuis 1902 et d'avoir su au fil du temps nous adapter, nous réinventer, innover. C'est une grande histoire, montréalaise et québécoise. Et nous fêtons justement ces 120 ans avec beaucoup de fierté.
Ouais, vous fêtez ça comment, c'est cet anniversaire-là?
Ben, essentiellement, vous savez, c'est une grande famille, Urgel Bourgie, avec des employés qui, à travers les générations, ont tous partagé une chose en commun, c'est-à-dire la passion, le dépassement de soi, l'altruisme, de manière à servir les familles endeuillées, quelle que soit l'heure du jour ou la journée dans l'année, fête ou pas fête, etc. On a tous en commun justement le service à la clientèle dans un domaine très particulier.
Là, vous allez faire quelques activités pour souligner le 120e. Mais en 120 ans, même si les gens continuent de mourir, c'est pas un secret. Qu'est-ce qui a changé le plus drastiquement dans vos pratiques en 120 ans, les méthodes d'inhumation? Est-ce que c'est resté la même chose depuis 120 ans ou ça change beaucoup depuis tout ce temps-là?
Ça change beaucoup, ça évolue, notre monde évolue, nos sociétés évoluent et le maître mot, c'est l'adaptation, la souplesse de réaction et surtout beaucoup l'écoute par rapport aux besoins des gens. On a passé au fil de plus d'un siècle d'existence, on a passé l'avènement par exemple de la crémation, tiens, nouveau mode de disposition qui est arrivé entre les années 70, 80 et même au-delà. Nous gérons en plus à Montréal 3 cimetières qui nous appartiennent. Alors vous doutez bien que toutes les pratiques, il y a fallu les adapter. Nous sommes dans un milieu qui culturellement est toujours en effervescence, en échange. Beaucoup de communautés émergentes qu'il faut écouter, considérer, apprendre les coutumes, les cultures, de manière à offrir des services à ces familles qui en ont besoin et qui arrivent soit d'autres horizons ou qui ont des pratiques qui peuvent sembler différentes, mais pourtant que l'on se doit d'apprendre et puis d'honorer.
Donc, vous adaptez, si on veut, à toutes les cultures, les religions. Vous adaptez comme ça vos méthodes d'inhumation, c'est ce que je comprends?
Absolument. Nous adaptons aux us, aux coutumes, aux religions, aux considérations de tout le monde, de manière à évoluer dans le temps. Et c'est ce qui fait que l'entreprise perdure depuis 120 ans. Je vous disais tantôt, le maître mot, c'est l'adaptation et la souplesse de réaction. Il faut faire preuve de beaucoup d'écoute pour pouvoir passer autant de temps au sein justement de la communauté dans la même profession.
Là, on sort de quelques années, ou du moins on espère en sortir, des années de pandémie. S'il y a eu, ça a affecté à peu près toutes les industries. J'imagine que ça a affecté la vôtre aussi. Est-ce que vous êtes mis à faire plus d'enterrements pendant la COVID-19? Est-ce que vous aviez des barèmes à respecter pour éviter, par exemple, de contaminer les gens? Comment ça s'est passé, la pandémie, de votre côté?
La pandémie, elle s'est passée, comme vous avez vu, tout au long même de la chaîne et du réseau de la santé, etc. Nous avons absolument été impactés de la même façon. Nous avons dû adapter nos opérations avec des procédures évidemment spéciales qui ont été régies par le ministère de la Santé et la Direction nationale de la Santé, où nous avons adapté nos procédures avec des protocoles spéciaux. Évidemment, avec les différentes vagues que l'on a dû passer, en mettant à l'abri d'abord nos employés et en répondant à la multitude de demandes que l'on a eues de la part des familles, qui a fallu évidemment beaucoup rassurer, beaucoup éduquer. Ça a été le gros enjeu. Puis aussi, je vous dirais, on a eu un défi technologique, puisque dans l'impossibilité de beaucoup de nos clients de ne pouvoir assister physiquement justement à des funérailles ou à des recueillements, la technologie est venue à notre secours et nous étions prêts, nous avions déjà innové dans ce sens-là, où on a eu beaucoup de cérémonies par captation vidéo, on a dû faire appel à des cortèges suivis même par des drones, de manière que les familles puissent assister même depuis chez eux, même en étant confinés, à des funérailles ou à des services, que ça soit au cimetière ou que ça soit en chapelle ou en église.
Vous parliez de protocoles, c'est des protocoles dans le fond sanitaires. Ça ressemble à quoi sur un protocole sanitaire quand on entend, puis j'imagine que c'est encore le cas, là, il y a encore des gens qui décèdent de la COVID. Ça ressemble à quoi quand on veut inhumer, embaumer quelqu'un, faire la crémation de quelqu'un qui a la COVID-19, qui en est décédé? Est-ce qu'il y a un protocole sanitaire strict à suivre autour de ça? Comment on fait ça?
Les protocoles sanitaires ont évolué depuis le début. Depuis le début, face justement au manque de connaissances qu'on avait les uns et les autres sur le sujet, le protocole nous demandait d'isoler justement la personne décédée des autres défunts, protéger nos employés, évidemment, et d'en disposer très rapidement, que ça soit par crémation ou même par inhumation, rapidement, en évitant justement le contact avec soit les membres de la famille ou toute autre personne.
Ça ne doit pas être facile.
Non, ce n'était pas facile. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a fallu trouver des alternatives et que, en l'occurrence, la technologie, par exemple, ou d'autres innovations nous ont permis justement de répondre à la demande. Aujourd'hui, ben évidemment, on a beaucoup plus de connaissances sur le sujet, même si on prend toujours des précautions vis-à-vis de nos employés ou des gens qui pourraient être amenés en contact avec la personne décédée. C'est quelque chose qui se contrôle plus facilement. On comprend qu'au bout de 6 à 7 vagues, tout le monde est un petit peu plus, je dirais pas habitué, mais au fait de ce qui se passe. Mais disons qu'on a fait face à des enjeux majeurs pour lesquels il a fallu s'adapter très, très rapidement, pour pas dire immédiatement.
On s'en comprend. Terminant, M. Chavrosse, c'est pénurie de main-d'œuvre, inflation, deux autres variables qui ont affecté à peu près toutes les entreprises du Québec. Ça ressemble à quoi, côté main-d'œuvre, dans les centres funéraires? Êtes-vous capable de pourvoir les besoins? Avez-vous assez d'employés pour vous occuper des cimetières, pour vous occuper de l'inhumation?
Nous avons absolument les mêmes soucis, vous le mentionnez justement, judicieusement. Nous avons les mêmes soucis que n'importe quelle industrie. Nous sommes perpétuellement en période de recrutement au niveau des cimetières, au niveau de notre personnel interne. Nous recrutons. Nous arrivons à maintenir quand même un certain niveau de recrutement, mais il est toujours à compléter, soit parce que on a des départs en retraite, on peut avoir des maladies, etc. Mais on est comme tout le monde, on fait face à la pénurie de main-d'œuvre comme on le peut. On est sur la même planète que tout le monde, mais à date, c'est quand même pas trop mal contrôlé de notre côté.
Patrice Chavgrosse, bon 120e anniversaire. On vous en souhaite 120 Merci. Autres du côté d'Urgel-Bourgie. Puis on invite les gens, là, ça peut sembler étrange là, de dire ça comme ça, mais dans vos centres funéraires, on invite les gens vivants, ceux-ci, à venir visiter parce qu'il va y avoir toutes sortes d'activités là, dans vos centres oui. pour célébrer tout ça. C'est moins glauque que ça n'y paraît, on vous le promet. Merci beaucoup, M. Chavgrosse.
Merci beaucoup. Bonne plaisir. Journée.
Au revoir.
Vous écoutez Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cube Radio. L'espoir.
Mathieu Boulay continue de suivre l'Omnium Banque Nationale ici à Montréal. Mathieu, est-ce que le court était en feu lorsque Félix Auger-Aliassime a triomphé?
Oui, tout à fait. Ça a été toute une soirée hier à l'Omnium Banque Nationale. Une belle victoire de Félix Auger-Aliassime en deux manches de 7-6 et 6-4 contre le japonais Yoshihito Nishioka. C'était incroyable. Moi, le fait saillant de ma soirée, bris d'égalité, Félix était débordé et là, il a sorti un de ses revers laser là, de grands jours pour soulever la foule. C'était électrique ce moment-là et Félix l'a reconnu après le match comme quoi que ce moment-là l'avait aidé à enlever beaucoup de pression sur ses épaules et pour finir le match. Puis par la suite, on dirait que c'est comme libéré. Son jeu est devenu plus relax, plus détendu. Et là, c'est après ça, on a vu du grand Félix Auger-Aliassime puis Nishioka, malgré le fait qu'il courait toutes les balles, qui était comme un mur, si tu veux. Il retournait tout ce qu'il courait partout, il retournait toutes les balles. Mais maintenant, il est arrivé qu'il n'y avait plus de solution pour Félix. Donc là, on a eu le droit à un très grand moment où ce que là, Félix passe au prochain tour. Déjà aujourd'hui, avant 4h, vers 4h environ, Félix Auger-Aliassime va affronter Cameron Norrie, le Britannique. Les deux gars se sont affrontés la semaine passée à Los Cabos. Norrie avait eu le dessus en trois manches sur Félix. Hier, j'ai posé la question à Félix, savoir si il aimait ça, peut-être avoir un laps de temps plus court d'affronter un gars, tu sais, un gars qui l'avait battu, si le laps de temps entre les deux affrontements était important pour lui. Il disait, ben c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que il dit, j'ai des repères du dernier match. Je sais qu'est-ce qui a marché, je sais qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, aujourd'hui, il va se présenter sur le terrain devant un Cameron Norrie. Norrie, là, c'est un client difficile, là, on ne se le cachera pas. Il est quand même 9e favori du tournoi, un des meilleurs au monde actuellement. Et Cameron Norrie, il va avoir... ça va être une grosse commande quand même pour Félix. Puis Félix il disait justement que les repères qu'il a du dernier match sont à confrères à sa mémoire. Donc là, il va arriver dans le match aujourd'hui. Il va être capable de faire, je pense, de faire une bonne impression encore. Et là, le chemin s'ouvre pour Félix. Il dit pas, il aime pas ça, il pense vraiment à court terme, Félix, mais il voit, là, comme tout le monde, là, comme quoi que le tableau principal s'ouvre, là, devant lui.
Ouais, il s'ouvre parce que il y a des favoris pour gagner le tournoi, puis des têtes de série mondiale qui ont tombé hier, et d'ailleurs, une est tombée aux mains du bad boy du tennis, Nick Kyrgios.
Hey, ton nouveau favori, ça, Alex, je pense, parce que je oui. pense que t'es en bon amour avec. Ouais, hier, là, tout un match. Moi, là, ça fait longtemps que j'ai vu des matchs. J'en ai vu à Wimbledon, je l'ai vu à Montréal. Mais le match entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev hier, c'était du grand tennis. Première manche à remporter à l'avantage de Medvedev. Mais là, j'avais hâte de voir la réaction de Nick Kyrgios. Est-ce que c'est l'ancien Kyrgios qu'on allait voir ou le nouveau Kyrgios? Soit le gars qui commence à pestiférer sur le terrain, à dire des gros mots, à lancer sa craquette, tout ça. Non, on a vu un nouveau Nick Kyrgios. Après la première manche, Nick Kyrgios m'a mentionné hier comme quoi que lui, à place de dire de tomber dans un mood négatif, il s'est regroupé, il a regardé son équipe et s'est dit « Hey, la semaine passée, là, on l'a fait. On a gagné Washington en simple et en double. » On a réalisé des belles choses ensemble, ben on va être capable encore. Fait que là, il est revenu en deuxième manche, brille dès le premier jeu de la manche, et là, par la suite, Kyrgios a commencé à prendre son rythme de croisière dans le match, et Medvedev n'avait pas de réponse, sérieusement, puis il a rendu, je pense, Medvedev un peu fou, ses barres, parce qu'à tour de bras, c'était des amortis, service volé, amorti, service volé, hey, je te jure, là, Medvedev va avoir couru un marathon hier sur le terrain, tellement que couru. Et Medvedev veut pas. Il était. Moi, je pense qu'il avait un peu de fatigue dans ses jambes. Il dit qu'il était confortable, qu'il était en bonne condition. Mais je pense que lui a gagné le tournoi de Los Cabos dimanche passé. Le temps de voyagement puis tout. Je pense que Medvedev a été un peu fatigué hier. Mais ça reste que faut donner beaucoup de crédit et de mérite à Nick Kyrgios hier parce que malgré la fatigue, on voit qu'il commence à peiner un peu, là, physiquement, il a de la misère un peu, mais il lâche pas, puis il donne tout un spectacle, puis il est en train de mettre toute la foule montréalaise de son côté. C'est sûr qu'il a fait des pitreries hier, Alex, on se cachera pas. Il a envoyé une balle à l'extérieur du stade, parce qu'à un moment donné, ça allait pas trop bien lors du bris d'égalité, mais d'ailleurs, la balle, on attend toujours qu'elle retombe.
C'est son genre.
Puis de l'autre côté, t'as aussi le Nick Kyrgios concentré, le service très efficace, très habile au niveau des touches au filet. Tu sais, il a été vraiment là, extraordinaire. Mais surtout, quand il y a eu des excès scolaires, des excès de colère, plutôt,
voilà.
il a réussi à se contenir. Tu sais, à un moment donné, il a crié, là, puis là, je dis, bon, on va voir si ça va déraper. Non, il s'est regroupé. Puis tout de suite après, service à 220 km/h, un house. Donc, à chaque fois qu'il y avait un excès de colère, il réagissait de la bonne façon. Puis Kyrgios, ça va toujours être ça. Il va toujours être toujours sur la ligne, mais il est tellement... Moi, là, je ne comprends pas hier. J'ai vu une chose là, extraordinaire, Alex. En conférence de presse, là, le gars de l'ATP dit « Question, please. » Tu sais, en voulant dire « Posez vos questions. » Là, bruit de criquet, il se passe rien. Mais là, je dis, de quoi qu'ils ont peur, le monde? Amène-moi le micro, je pose une question à Nick. Mais Nick Kyrgios, cette semaine, est dans un bon état d'esprit, très sympathique, soit dit en passant, puis il a toujours répondu à mes questions, puis je pense que tout est une question de savoir comment poser la question aux athlètes.
Ouais.
Les athlètes qui sont un peu plus pointilleux, Nick Kyrgios, là, il est dans un bon état d'esprit, profitons-en. Ouais. Il est tellement rafraîchissant, puis il est tellement structuré dans ce qu'il dit. C'est pas une épaisse, ce gars-là, Alex.
Non,
je vous le dis,
pas.
Là, moi j'ai l'impression d'avoir un boxeur. Dans le monde de la boxe, t'as beaucoup de bums, OK? Des gars qui viennent des milieux difficiles, tu sais. Puis à l'extérieur de ce personnage-là, tu découvres une personne extraordinaire, un gars qui a les valeurs à bonne place. Et Nick Kyrgios, cette semaine, l'a mentionné. Ma mère est à l'hôpital, mon père a des problèmes de santé, mon frère vient d'avoir un bébé. Et je peux pas aller en Australie comme ça me tente. parce que j'aimerais ça aller voir ma gang, tu sais, aller voir ma famille. Puis les valeurs familiales sont très importantes pour Nick Kyrgios. Et il peut pas y aller. Fait que ça, veut pas, là, pour n'importe qui, ça doit jouer dans sa tête à un certain niveau. Et des fois, tu te dis, ouais, bon, voyons, pogne les nerfs. Le gars, là, peut-être qu'il s'ennuie de sa famille. Puis là, il a déjà dit sur le tour, comme quoi qu'il voyagerait plus autant qu'au 12 mois par année. Non, ça va être 8 mois par année. Pendant 4 mois, je vais être à la maison avec ma gang. Puis je pense que de plus en plus d'athlètes vont vouloir faire ce genre de choix-là. Parce que c'est bien beau, les points, l'argent, tout ça. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. C'est pas rien que le sport pour certains athlètes. Puis Nick Kyrgios est en train de le prouver cette semaine. Et je te dis, j'aurai une bonne histoire à vous raconter demain dans le Journal de Montréal à propos de Kyrgios. Je vais l'écrire aujourd'hui puis je vous ramène ça demain.
Ouais, ça a l'air d'être vraiment, comme tu le dis, là, il a l'air d'être en train de captiver la foule montréalaise. Moi, le premier qui savait peu de choses de lui, à part qu'il était fantasque un peu. Et vraiment, on est en train de découvrir tout un athlète. Mathieu Boulay, on se reparlera demain de tout ce tennis. On fera un petit tour aussi du côté de Toronto parce qu'il y en a de l'action à Montréal, à Toronto. L'Omnium Banque nationale qui se poursuit.
Alexandre Morinville-Ouellet. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Julia Pagé et Rémi Villemur sont les deux Hun. Les deux Run avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous deux.
Salut.
Je dis les jeunes parce qu'on a des sujets de jeunes aujourd'hui, mais qui peuvent interpeller tout le monde. Premier qui parle... Des jeunes qui votent, hein, qui vont voter éventuellement au fédéral. Et si traditionnellement, notre génération ou les générations plus jeunes ont tendance à voter vers la gauche, ben ça pourrait changer. Il y a un sondage qui démontre que 37 % des 18 à 29 ans pourraient vouloir voter conservateur au fédéral aux prochaines élections. Est-ce qu'on a le droit, c'est-tu légal ça, d'être jeune et conservateur, Rémi?
Oui, j'ai vérifié ce matin, puis ça l'est toujours.
Okay.
Peut-être que ça pourrait changer, mais on va s'attacher à la possibilité que ça puisse rester. Si on veut comprendre cette réalité-là, à mon avis, il faut vraiment admettre, en partant, que le montréalocentrisme, ça a une influence insidieuse sur nos esprits. Je m'explique. Quand on habite à Montréal et qu'on sort jamais vraiment de cette ville-là, on a l'impression que c'est impossible que les jeunes puissent voter pour des partis plus conservateurs. Dans notre esprit, les jeunes, comme tu viens de le dire, ça vote à gauche, ça veut faire table rase sur le passé, ça veut contester les héritages. Mais en fait, c'est un mensonge, ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, un peu avant les élections provinciales, il y avait un sondage qui était sorti qui nous avait appris que la majorité des jeunes, donc des gens de la tranche d'âge 18-34, s'apprêtaient à voter CAQ ou libéral. Et là, le Parti libéral, c'était pas le Parti libéral de Dominique Anglade, là, c'était le Parti libéral de Philippe Couillard. À Montréal, pendant ce temps-là, on sentait que QS avait le vent dans les voiles chez les jeunes. Mais pourtant, le sondage, il nous apprenait que QS était dernier au Québec chez les jeunes de 18-34. C'était même dernier derrière le Parti québécois. Donc, il y a vraiment une différence entre la volonté qu'expriment les jeunes en ville et en région. Puis la réalité est la même en Ontario, en passant en Alberta, aux États-Unis. En fait, elle est, à mon avis, observable à peu près partout dans le monde occidental. Dans les grandes villes, c'est généralement progressiste chez les jeunes, au sens politique du terme, on s'entend. Et dans les régions, c'est plus conservateur. Parce que le conservatisme, c'est pas le mal incarné. C'est une idée du monde, totalement légitime. C'est un différent rapport à l'espace et au temps. Le conservatisme, c'est l'enracinement, puis le progressisme, c'est une mobilité constante. C'est une idée, tout simplement. Et donc, on peut être jeune et voter conservateur, on peut être jeune pour voter progressiste, tout simplement.
Toi, est-ce que ça te surprend, Julia?
Oui, moi, ça me surprend quand même, puis je ferais une distinction entre le conservatisme point et le conservatisme de Pierre Poilievre, qui pour moi décèle une autre tendance, qui est peut-être une tentative de se raccrocher à quelque chose alors que l'ordre social est en constant changement. Mais je pense quand même que c'est très dur de déceler une tendance en regardant un phénomène relativement récent dans le cas du Canada. On peut se demander que ce serait pas plutôt juste une question de candidat. Ça se pourrait que Poilievre soit particulièrement habile avec les plus jeunes. Au contraire, est-ce que ça pourrait pas plutôt être par insatisfaction des autres partis? Est-ce que la pandémie a eu un rôle à jouer? Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et ce serait assez présomptueux d'assumer que cette tendance qui est très récente va se maintenir dans le temps, surtout que c'est une tendance contraire à ce qu'on a observé depuis de nombreuses années chez les jeunes et une tendance contraire à ce qui s'observe dans le reste du monde occidental. C'est vrai qu'il y a une plus grande concentration de gens à gauche dans les grands centres, mais en général, aux États-Unis, les jeunes votent en forte majorité pour les démocrates. En France, au premier tour, ça a été même vraiment marqué. Il y a un tiers des 18-24 ans qui ont voté pour Mélenchon, le candidat le plus à gauche. Et donc, c'était même plus que ce à quoi on s'attendait pour les jeunes. Puis au Québec, ben, les derniers sondages placent facilement Québec solidaire sur le haut du podium, toujours pour les 18-24 ans. Donc, on n'est pas à l'abri de revirements de situation étonnants, mais pour moi, étonnant serait le terme approprié.
Est-ce que la pandémie de COVID-19 a peut-être pu jouer un rôle dans ces données, cette montée, si on veut, de l'attirance vers le conservatisme? On s'entend, là, c'est pas parce que ils ont des politiques drastiquement différentes, mais peut-être que le fait qu'ils soient plus laxes souvent ou plus qu'ils froncent plus les sourcils face aux mesures de confinement, est-ce que ça peut aider leur cause auprès des jeunes, Rémi?
Oui, sans doute, mais on oublie parfois que le conservatisme, de toute façon, si on sort par exemple des jeunes, aux deux dernières élections fédérales, les conservateurs ont gagné le vote populaire. Donc, de penser que les libéraux ont le vent dans les voiles, que les libéraux sont les plus populaires au Canada, c'est faux. En fait, ils sont avantagés par un système électoral, qui est le mode de scrutin qu'on ne contestera pas ce matin, mais les conservateurs ont une légitimité qui dépasse un peu le portrait qu'on se fait de leurs résultats ici. Puis, bon, aux dernières élections, les jeunes ont voté pour la CAQ et pour les libéraux en général, il me semble, au Québec. J'ai vu ça passer. Donc, est-ce que parce qu'on apprend là tout récemment que les jeunes sont, disons, projettent de voter pour QS, c'est ce qui va se passer? J'en doute. Je pense pas, en fait, que QS sort vraiment de la ville. Ils ont 3-4 circonscriptions en dehors de la ville. Il y en a 2 qui sont en danger. Donc, ça, c'est une réalité qu'on refuse d'admettre. C'est que les jeunes en région, ils sont plus conservateurs que les jeunes en ville. Et la ville, c'est une minorité en général.
C'est sûr que ça couvre un moins grand territoire en tant que tel. Julia, Rémi, je veux vous entendre sur un autre sujet de jeunes. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un nouveau sondage, une autre étude du Pew Research Center qui a été publiée hier qui concerne les applications, les réseaux sociaux, les plateformes de divertissement. Et ce qu'on apprend, c'est une tendance qui était déjà observable, mais qui maintenant est prouvée par cette étude-là, c'est que Facebook dégringole auprès des ados. On parle là, des 13 à 17 ans qui se rendent sur Facebook. Ça a chuté là, en 2015 de 71%, 32% de chute en 2022. Donc, c'est presque le tiers des ados américains seulement qui l'utiliseraient. Julia, est-ce que ça te surprend, toi?
Non, il fallait s'y attendre. Puis il y a tellement de raisons qui permettent d'expliquer qu'on observe un si grand déclin d'utilisation du côté de Facebook. Mais c'est surtout parce que le marché s'est énormément fragmenté. Pardon. Les jeunes ont énormément d'options. Ils s'écrivent sur Snapchat, ils vont se divertir sur YouTube, sur TikTok. Et Facebook devient un site qui ne perd pas toute son utilité, mais qu'on va utiliser, par exemple, pour organiser des événements, pour vendre des choses sur Marketplace. Mais il perd sa fonction de divertissement. Et c'est une très, très lourde perte. Étant moi-même une jeune femme de la génération Z, ben, je suis très familière avec toutes ces plateformes. Et une chose que je peux dire sur TikTok et sur YouTube, c'est que leur force incontestable, c'est qu'ils ont réussi à développer des algorithmes tellement puissants que le contenu auquel on est exposé est parfaitement personnalisé. Et donc, ils ont un très fort pouvoir addictif. Dans ce domaine-là, Facebook est beaucoup moins sophistiqué et il y a même une blague qui circule beaucoup voulant que si tu vois une vidéo sur Facebook, ça veut dire qu'elle était sur TikTok il y a 3 semaines. Donc, Facebook a un peu de mal à suivre la parade et ben, c'est ce que les chiffres démontrent.
Rémi, toi, est-ce que tu penses que ça a rapport aussi au fait que ben les parents, les adultes, là, je vais utiliser le terme les parents, ont fini par s'approprier eux aussi Facebook puis c'est devenu moins cool à cause de ça?
Peut-être, j'avais jamais pensé à ça. Par contre, je pense aussi que les jeunes changent. Moi, généralement, quand je vois des nouvelles passer comme ça, là, je suis assez, la chute de Facebook, je suis assez content. Ça me réconcilie avec la modernité parce que moi, j'ai pas peur de le dire, pour moi, Facebook est un crime contre l'humanité, okay. Littéralement. Mais ça restait quand même le dernier réseau social où où on exigeait, disons, relativement des utilisateurs qui soient actifs, participatifs. Il n'y avait pas d'intérêt à être sur Facebook si vous ne construisiez pas un réseau ou si vous ne l'alimentiez pas. Puis là, aujourd'hui, je vois que ce genre de réseau-là qui demande une participation d'utilisateurs est en baisse. Et qui monte, c'est TikTok, qui est carrément un truc de zombie, là. C'est une affaire où que vous asseyez devant votre écran, il y a du contenu qui défile et vous vous laissez avaler tout rond jusqu'à l'hypnose. Donc, pour moi, le passage de Facebook à TikTok paraît peut-être stimulant. C'est quelque chose de dramatique parce que on constate que les jeunes sont de plus en plus encaisseurs de contenu. Ils ne créent plus tant que ça du contenu. La plupart des gens sur TikTok, c'est des gens qui regardent, pas des gens qui créent du contenu. Donc, je pense qu'on a remplacé la peste par le choléra, littéralement.
Il y a YouTube aussi, on en parle peu, mais 95% des adolescents américains disent s'en servir. Puis je pense, on n'a pas les chiffres pour les adultes, là, je les ai pas devant moi, mais à peu près tout le monde que je connais au monde utilise YouTube, soit pour visionner des choses, puis là on peut voir à peu près du contenu de n'importe quoi, là, ça va même dans les streamings en direct. Est-ce que YouTube a sa place dans tout ça? Est-ce que c'est le mal incarné pour toi, Julia?
Non, pas du tout. Je trouve même qu'il y a des choses assez intéressantes dans YouTube parce que je pense qu'on peut dire que ce que YouTube remplace, c'est la télé traditionnelle. Puis la télé traditionnelle, c'est tellement institutionnalisé qu'on était face finalement à des gros producteurs, des gros diffuseurs qui faisaient un peu dans du travail de ce que la masse voudrait voir. Mais YouTube permet énormément de sous-culture. Tout le monde peut y trouver son compte. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Rémi. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, des plateformes comme TikTok et comme YouTube, les gens participent à la création de contenu. Puis finalement, c'est plus les autres qui décident pour nous ce qu'on va écouter. Il y a plusieurs choses. On peut s'informer, on peut se désinformer aussi, disons-le.
Ouais.
Mais pour moi, il y a une grande liberté dans le contenu qui peut être abordé. Ça amène des dangers. Mais aussi, quand même, moi, j'applaudis cette capacité des gens à reprendre le contrôle, finalement, du contenu qu'ils consomment.
Reprendre le contrôle, puis aussi, il faut le souligner, hein, TikTok, oui, ça peut nous faire virer zombies à force de vouloir voir du contenu en continu, puis surtout du contenu que nos algorithmes là, savent qu'on aime. Mais d'un autre côté aussi, il y a bien des gens qui réussissent à soulever des enjeux, parfois, qu'on voit pas, de faire du militantisme, de l'activisme sur TikTok. Faut pas oublier quand même qu'il y a certains beaux côtés aux réseaux sociaux. C'est un débat assurément qu'on poursuivra ensemble, là, Julia, Rémi, merci beaucoup. Moi, je m'attends à ce que Rémi, d'ici la fin de notre saison, d'ici la fin de l'été, là, ait un compte TikTok et qu'il produise des vidéos. Moi, ça, j'aimerais beaucoup savoir ça. Merci à vous deux.
J'espère que t'as la foi. Bye.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
Connaissez-vous l'expression « le chien a mangé mon devoir » ? Bon, ça peut sembler l'excuse la plus plate et classique au monde, mais des fois, ça peut être vrai. Et dans ce cas-ci, ça l'est. Une histoire de fou qui a été vécue puis qui est toujours vécue actuellement par une ex-collègue ici de Cube Radio, une recherchiste, étudiante à l'UQAM, Frédéric Hull, que je rejoins présentement en direct de Guy Favreau. Oui, oui, Guy Favreau, le centre pour aller faire son passeport parce que figurez-vous qu'à moins de 48 heures de son départ en voyage, son passeport a été mangé par son chien. Frédéric Hull, bonjour.
Salut Alex, ça va bien?
Ça va sûrement mieux que toi. Raconte-nous donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, hier, on était le 10 août, c'était ma fête.
Bonne fête en retard.
Puis en fait, ben merci. Puis en fait, je suis arrivée chez mes parents, j'avais laissé ma valise, mon carry-on dans ma chambre qui était fermée. La porte était fermée, j'avais laissé mon passeport en dessous de 3 serviettes. Puis mon passeport, en fait, était là dans un étui protecteur, donc quand même très bien caché. Puis en fait, maintenant, là, mon chien, c'est encore un bébé, il est rendu à 8 mois, mais on le laisse sortir de sa cage quand on n'est pas à la maison. Et imagine-toi donc, en fait, là, qu'il s'est rendu dans ma chambre le jour de ma fête, puis il a décidé que dans toutes les choses qu'il y avait dans ma chambre, ben c'était mon passeport qu'il avait envie de manger. Fait que là, moi, j'ai capoté, là, je suis arrivée dans ma chambre, puis j'ai vu qu'il avait comme massacré ma boîte de Kleenex, qui avait mâchouillé ma serviette, il y avait des trous dans ma nouvelle serviette, ça, à la limite, c'est vraiment pas grave. Mais là, j'ai vu mon étui ouvert, sans passeport, je capotait. Donc là, moi puis ma mère, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher dans la maison. On savait même pas il était où. Puis finalement, il était en dessous de mon lit. Puis la seule feuille qu'il a mangée, en fait, ben c'est la feuille très importante, soit celle avec mon visage et toutes mes informations.
Et là, c'est la page est massacrée. Là. On n'est plus capable. C'est plus lisible. C'est plus...
ça serait pas accepté. Non, exact. Puis le scan, en fait, qui est très important... pour quand on fait l'embarquement, en fait, là, ben, il était plus fonctionnel, ça marchait plus. J'ai été hier à Service Canada, à la mairie de Valleyfield. Mes parents habitent à Coteau-du-Lac. Puis, en fait, ils m'ont dit, il faut peut-être refaire un passeport. Et c'est à 24 heures de mon voyage à Hawaï. Donc, c'est une drôle de circonstance.
Ben oui, dire, tu pars
là,
demain.
Le jour de ma fête. Ben ouais, c'est exactement, ça, je pars demain matin.
Tu pars demain matin. Là, t'es au centre Guy Favreau. Ça fait un petit bout quand même là, qu'on a arrêté de suivre là, les fameuses files au bureau des passeports. Ouais. Ça ressemble à quoi en ce moment? On va faire un petit état de la situation pendant que tu y es. As-tu espoir de passer aujourd'hui?
Ben en fait, j'ai des très bonnes nouvelles. Ça vient tout juste là, de tout se conclure. J'ai attendu une heure. Le service était vraiment impeccable. Les employés vraiment très, très, très gentils, très compréhensifs aussi de l'aspect temps, en fait, qui est primordial dans mon cas, là, vu que je pars demain. Puis en fait, en une heure, on m'a traité. Puis maintenant, là, ils m'ont déjà donné une heure pour revenir chercher mon nouveau passeport. Donc, wow. Je vais venir le rechercher à 14h30 en après-midi. Ici même, et je vais avoir mon passeport, c'est déjà payé, donc ça vient tout juste là, de se passer, je viens tout juste de finir mon échange là, avec le personnel de Service Canada.
Est-ce qu'ils ont sourcillé? Est-ce qu'ils ont haussé les est-ce qu'ils ont porté un regard assez étrange quand tu leur as dit « Je m'excuse, je veux passer rapidement, je pars demain matin et mon chien a mangé mon passeport », ça pourrait sembler comme une excuse pour passer plus vite. Comment ils ont réagi quand tu as dit ça?
Ben en fait, tout le monde rit, là. Je pense qu'il faut prendre ça en riant. Là, tantôt, tu parlais justement de quand on utilisait un peu plus jeune l'excuse du chien qui mange le devoir. Ben tu penses jamais dans ta vie que ton chien va manger ton passeport, mais je vous confirme que ça peut arriver à partir de maintenant. Alors, mettez ça dans des endroits hyper sécuritaires, hors de portée des chiens, là, parce que pour vrai, je pensais jamais que ça allait marcher dans ma vie. Mais tout le monde rit, là. Ils prenaient ça en riant. J'ai même montré en fait au personnel une photo de mon chien, là, question de montrer quand même qu'il était cute, là, même s'il a mangé mon passeport.
Oui, ça on peut comprendre. On l'aime quand même, le pitou. Écoute, en terminant, Frédéric, t'as aussi eu de l'aide, je pense, de ta députée. Est-ce que ça se peut?
Exactement. Claude de Bellefeuille, députée fédérale pour Salaberry-sur-Roi. En fait, là, hier, j'étais. Pour vrai, je pensais m'évanouir quand ça s'est passé parce que je le sais, travaillant dans les médias, comment c'était la situation justement entourant les passeports. Ça m'a tellement, là, j'avais le cœur arraché, j'avais peur de pas pouvoir partir en fait. Puis en plus, je pars avec une amie qui travaille justement à Cube.
On la salue.
On la salue, la belle Florence. Mais j'avais peur de devoir lui annoncer que soit elle partait seule ou qu'on cancellait ou qu'on reportait le voyage. Mais j'ai eu beaucoup d'aide justement, là, le bureau, Diane Leclerc aussi, du bureau Salaberry-sur-Roi, qui m'ont beaucoup aidé. Ils ont fait des contacts auprès des Services Canada. Donc, je vous dis, là, si vous êtes dans des situations comme la mienne, n'hésitez pas à faire aller les contacts. J'ai aussi appelé Geneviève Tachereau, qui est la mère d'un de mes bons amis du secondaire, qui travaille pour Air Canada, qui a comme envoyé mon passeport déchiqueté, mâchouillé à ses collègues, à savoir wow. si ça allait fonctionner ou non. Donc, faites aller vos contacts, puis n'hésitez pas, là. Donc, je suis très reconnaissante de l'aide que j'ai reçue là, de ma députée.
Frédéric Houle, ex-collègue ici, on te salue, on te souhaite bon voyage également. Heureusement, tout est bien, qui finit bien. Et heureusement, ouais. Ça semble être pas mal mieux maintenant dans les bureaux de passeport. Merci pour tout, Frédéric, et bon voyage.
Merci, Alex. Salut. Bonne journée.
Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
Quand on pense entreprise et pandémie, règle générale, on se dit que ça a plutôt été négatif. Hein? On a vu pas mal plus de restaurants, de petites entreprises devoir fermer à cause des problèmes encourus par la pandémie. Mais il y a des individus, il y en a des gens qui sont soit chanceux, brillants ou autres, qui ont réussi à faire fleurir leurs activités pendant la pandémie. C'est le cas de mon prochain invité, Louis-Germain Crête, qui est le fondateur de Mr. Bubble Tea, une entreprise fondée en 2020 qui, en ce moment, offre des produits dans 250 points de vente de la province. Bonjour, Monsieur Crête.
Bonjour.
Hey, c'est quoi ça, un bubble tea pour commencer? Je vous avoue, je pense que j'ai jamais eu le plaisir de boire, manger ça. Comment on fait ça?
les bubble tea, ça existe depuis les années 80. Ça a été inventé en Taïwan. Et en fait, ça peut se décliner de plein de façons. Le principe, c'est vraiment un breuvage au départ, un breuvage dessert. C'est un breuvage assez sucré. Donc, c'est un dessert qui se boit, dans lequel on met du thé et on ajoute initialement là, des petites boules de tapioca. Donc, une espèce de petite gamme gélatineuse et on boit ça avec une grosse paille. Maintenant, les boules de tapioca sont remplacées parfois par ce qu'on appelle les bulles fusion. Fait que là, on s'en va dans la cuisine moléculaire. Des petites boules de gélatine remplies de vrais jus de fruits qui éclatent dans la bouche.
Comment vous faites ça, c'est la cuisine moléculaire? Ça doit prendre des appareils spéciaux?
Oui, c'est beaucoup de recherche et développement. En fait, on s'en va vers une fabrication au Canada là, cette année. Enfin, après un an de travail, c'est vraiment quelque chose qui était maîtrisé justement du côté de Taïwan. Ça existe, il y en a vraiment plusieurs qualités sur le marché. Nous, on utilise la meilleure qualité avec des vrais fruits puis une gélatine végétale à base d'algues de première qualité.
Fait que c'est, dans le fond, on prend ce jus-là, puis comment on fait pour le rentrer dans ces petites bulles de gélatine-là? On fait la bulle avant, on l'injecte en dedans. Comment ça marche?
Comment ça marche, la spiritification inversée? Bien, effectivement, c'est de la cuisine moléculaire. Donc, on fait un bain d'algues, puis on fait une préparation là, qui contient des liants alimentaires. On laisse tomber des petites gouttes dans ce bain-là, et là, la paroi se forme. À l'intérieur, ça reste liquide. Donc, la sensation en bouche, lorsqu'on croque, c'est que ça éclate. C'est vraiment quelque chose qui est unique comme feeling, puis qui est encore méconnu au Québec, je vous dirais.
Comment, bien, c'est méconnu au Québec. Comment vous est venue l'idée, en pleine pandémie, de lancer une entreprise de bubble tea comme ça?
Ben, je vous dirais que l'idée était venue avant la pandémie, même un an et demi avant. Moi, j'étais un amateur de bubble tea. J'y allais dans les bars à bubble tea, puis je remarquais que j'étais pas capable d'en retrouver près de chez moi. Donc, c'était vraiment pas aussi développé qu'aujourd'hui, là, 4 ans plus tard. Donc, j'ai eu l'idée de le mettre en bouteille, de le démocratiser puis de le rendre accessible à tout le monde. Donc, c'est une boisson qui t'inspire des bars à bubble tea, mais qui se veut quand même moins sucrée que les fameux là, bars là, où on retrouve toutes sortes de boissons au verre.
Est-ce que vous avez été surpris par la popularité, finalement, que ça connaît vos produits? Parce que vous êtes en pleine expansion, ça a augmenté beaucoup au Québec. Êtes-vous surpris de la popularité?
Oui, vraiment. En fait, on a remarqué que les gens cherchaient un breuvage sans alcool, souvent, pour un petit peu là, se réconforter, avoir du plaisir entre amis, continuer la fête. Ça répondait vraiment justement là, à ce besoin-là.
Et la prochaine étape pour votre entreprise, on se dirige vers quoi? Vous parliez du Canada, là. C'est quoi les prochaines étapes?
Les prochaines étapes, c'est de pouvoir en fait avoir un bubble tea québécois. Je m'explique, c'est que la plupart des produits qu'on utilise, des ingrédients, ça provient de l'extérieur, parce qu'il n'y en a pas carrément ici. Maintenant, donc, on parle de poudre à saveur de fruits, des sirops de fruits, des bulles fusion. Donc, tous ces produits-là, on va être capable, là, d'ici la fin de l'année, de pouvoir les fabriquer ici, d'être alignés avec l'autonomie alimentaire et l'achat local.
Fait que peut-être un bubble tea au bleuet du lac Saint-Jean, par exemple?
Exactement.
Louis-Germain Crête, fondateur de Mr. Bubble Tea, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance avec le reste de votre entreprise. Puis je vais aller moi-même essayer là, un de vos produits. Merci.
Merci, bonne journée.
Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. N'oubliez pas les conseils de notre collègue Frédéric Houle. Cachez bien votre passeport si vous voulez aller en voyage avec un bébé chien qui se promène dans votre maison. Sinon, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Merci à toute l'équipe qui est avec moi. Je vous laisse avec Alexandre Dubé. On se retrouve demain, 9h. Cube Radio.